Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Vincent Parisot. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est donc RTL Soir, deux heures d'infos avec vous. Avec à la une ce soir, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, désormais possible. Depuis ce matin, les prises de rendez-vous sont ouvertes et les créneaux se remplissent déjà très vite. Nous verrons cela dans un instant avec un reportage RTL à Vitré. Si vous hésitez en tout cas à faire vacciner votre enfant, que vous vous interrogez sur les bénéfices et les risques, eh bien rendez-vous dans 20 minutes. La présidente de la Société française de pédiatrie, Christelle Gras-Le-Gouen, sera l'invitée d'RTL Soir. Tout de suite, le premier journal et les autres titres de l'actualité. C'est avec vous, Stéphane Genest. Bonsoir, Stéphane.
Bonsoir, Vincent. Bonsoir à toutes et à tous. Deux visages de la lutte contre l'obligation vaccinale contre le Covid aux Antilles, morts après avoir contracté la maladie. L'élection présidentielle à l'heure de la pandémie, scrutin qui aura bel et bien lieu. Emmanuel Macron affirme mordicus que les échéances démocratiques seraient maintenues. Éric Dupond-Moretti à la rencontre d'un surveillant pénitentiaire blessé hier après l'évasion d'un détenu. Et puis c'est Noël sur RTL, on donnera la parole à celles et ceux qui sont natalophobes.
Natalophobes.
Ils détestent simplement cette période. Et l'arrivée du Quintet Plus cet après-midi à Vincennes, il fallait jouer le 8, le 14, le 6, le 13 et le 9.
Après le journal de Stéphane Genest, la brigade RTL, quand les tensions diplomatiques avec Moscou font flamber le prix du gaz. À 18h20, donc, ce sera l'invité d'RTL Soir, la présidente de la Société française de pédiatrie, pour évoquer la vaccination des 5-11 ans. 18h30, les dessous de l'actu, l'autotest, mode d'emploi. L'autotest, à condition d'en trouver, Léonard Cassette, qui a fini par pouvoir en acheter, va nous montrer en direct comment on l'utilise. Ensuite, LVT dernière avec Isabelle Morini-Boss pour la finale de la France à un incroyable talent ce soir sur M6 à 18h40. On défera le monde en mode détente et fête de fin d'année avec Cyprien Signy et sa bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va carrément défaire la planète. Alors pas de panique, hein, c'est une image. On va vous parler environnement et on va s'imaginer dans le monde de 2050 si on décide de ne plus rien faire du tout. Je vous préviens, ça promet. Au menu également, l'origine des santons et l'histoire des 13 desserts que les gens mangent dans le sud de la France le soir de Noël. Oui, 13 desserts.
Eh bien, on a diète à 18h40, hein, tout à l'heure. Et puis évidemment, tout au long d'RTL Soir, des points sur le temps avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Quelle tendance pour demain?
Nuageux au nord et près de la Méditerranée, mais beaucoup moins froid au nord qu'aujourd'hui.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir,
le journal, Vincent Parisot,
Stéphane Genest.
Et ça y est, les premières piqûres du vaccin contre le Covid ont été faites aujourd'hui sur les jeunes Français âgés de 5 à 11 ans. À Vitré, en Ille-et-Vilaine, 24 créneaux de vaccination étaient disponibles. Tous ont été pris d'assaut. On vous y retrouve, Nicolas Bobby, puisque toute la journée, on a vacciné à tour de bras nos chères têtes blondes.
Pédiatre retraité, le docteur Charles Leclerc reçoit dans un petit box.
Bonjour Lucien, le courageux. Il y a le fauteuil rose pour toi. Tranquille, relax.
Il faut que tout le monde se vaccine pour peu qu'il y ait de Covid.
À chaque fois, une petite goutte de sang est prélevée pour vérifier s'il y a des anticorps. L'infirmière rassure le garçon de 10 ans.
Tu prends une grande inspiration et tu souffles tout doucement. Ça va?
Ça va.
Super, c'est fini.
Bah, en vrai, je pensais que ça allait faire un peu plus mal, mais ça fait presque même pas mal en fait.
Très bien, pour le courage. Tu veux un diplôme?
Oh oui, tu le mérites. Hein.
C'est au tour d'Ambroise et de Naya, 8 et 10 ans.
J'avais pas envie d'avoir le corps.
Imagine que t'es à la piscine. Tu barbotes, tu souffles tout doucement. Ça y est, c'est fini.
Ça m'a pas fait trop mal.
Ça va, Naya? T'es prête?
Ça fait pas si mal, en vrai.
Les aiguilles, elles sont toutes petites, petites.
La maman est rassurée.
C'est important de faire vacciner l'ensemble des personnes, justement, pour protéger tout un chacun.
Depuis ce matin, le centre de vaccination est pris d'assaut.
Le reportage de Nicolas Bobby, correspondant de RTL dans le Grand Ouest.
Et on sera donc dans un gros quart d'heure avec la présidente de la Société française de pédiatrie, Christelle Gras-Le-Gouen. On va justement continuer d'évoquer la vaccination avec cette actualité qui fait la une des journaux en Martinique, parce que deux visages du mouvement contre l'obligation vaccinale ont contracté le Covid et ils n'ont pas survécu.
Alain Decaille et Aimé Aga, deux représentants syndicaux, étaient opposés à l'obligation vaccinale et au pass sanitaire. Ils appartenaient à l'intersyndicale qui avait appelé à la grève générale le mois dernier. La Martinique avait été paralysée pendant 10 jours. Adeline Courson, vous êtes la correspondante de RTL en Martinique et c'est justement il y a un mois qu'ils ont été contaminés.
Oui, après plusieurs jours de barrages et manifestations, l'intersyndicale avait obtenu la mise en place d'ateliers pour rouvrir le dialogue avec les autorités. C'est à l'occasion d'une réunion sur le Covid Covid, justement, que plusieurs syndicalistes ont contracté le virus, comme Olivier Labastide, président de la Fédération des taxis de Martinique.
Plusieurs membres de l'intersyndicale l'ont eu, moi je l'ai eu. Les mesures barrières étaient respectées, nous gardions des distances. Donc, est-ce qu'il y a eu des imprudences? Maintenant, je ne suis pas médecin.
Parmi la dizaine de personnes contaminées, le préfet de la Martinique, Stanislas Cazel.
Je suis un exemple parmi d'autres des gens qui, malheureusement vaccinés, ont quand même eu le Covid. Donc, c'est arrivé au Premier ministre, c'est arrivé au préfet de la Martinique. Il illustre la protection du vaccin, c'est-à-dire que j'ai eu des tout petits symptômes pendant 2 jours et ensuite j'ai été débarrassé de cette histoire.
Côté syndicat, en revanche, difficile de savoir qui, parmi les malades, a pu être sauvé grâce au vaccin. Ils ne communiquent pas sur cette question. Et si le décès de leurs 2 camarades les a touchés, certains sont en ce moment même devant l'ARS pour demander le retrait de l'obligation vaccinale.
Explication signée Aline Courson, correspondante de RTL en Martinique.
Sur le front de la propagation du virus maintenant, l'inquiétude des autorités qui affirment que le variant Omicron du Covid devrait être majoritaire en France entre Noël et le Nouvel An.
Et le porte-parole du gouvernement prévient, cette mutation se répand à vive allure. Avec ce chiffre, les 100 000 contaminations quotidiennes seront dépassées d'ici la fin du mois. De quoi inquiéter l'exécutif à l'aube de l'élection présidentielle. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir.
Alors le premier tour, c'est le 10 avril, mais le gouvernement prépare déjà le terrain. Pour preuve, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va rencontrer le président du Conseil constitutionnel en janvier.
Oui, on l'a appris hier soir, une rencontre à l'initiative de Gérald Darmanin en tant que ministre de l'Intérieur. C'est lui qui organise les élections. Alors, pas question de reporter le scrutin. Ce matin, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron l'a redit. Les échéances démocratiques seront maintenues. Ceux qui pensent le contraire sont dans le fantasme, nous dit même un conseiller de l'exécutif. Mais il s'agit bien de réfléchir aux modalités de faire campagne avec le virus. On sait par exemple que la question des meetings est très sensible. Pour le moment, aucune restriction, ni sur les jauges, ni sur le pass sanitaire. C'est ce qui a permis à Éric Zemmour d'organiser son grand meeting avec plus de 10 000 personnes, sans restriction, à part le masque. Mais qu'en sera-t-il pour la suite? Dans l'entourage de Marine Le Pen, par exemple, on s'attend à ce que des mesures plus fortes soient annoncées avant son premier grand meeting, le 15 janvier. Et puis Gérald Darmanin discutera aussi de l'organisation du scrutin le jour J. Pourquoi ne pas instaurer un vote à distance, augmenter le nombre de procurations? À ce stade, aucune piste n'est privilégiée. Quoi qu'il en soit, chacun est d'accord sur un point. Cette élection présidentielle ne ressemblera vraiment à aucune autre.
Thomas Després du service politique de RTL et puis le gouvernement qui prépare aussi la rentrée de janvier. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, estime qu'il faut accélérer le télétravail et demande aux entreprises de se préparer dès maintenant à renforcer le dispositif dès les premiers jours du mois de janvier.
Avec d'ailleurs un reportage avec celles et ceux qui vont être concernés, ce sera dans le journal de 19h. Et puis à l'étranger aussi, c'est l'inquiétude.
Oui, puisqu'on vient d'apprendre que le masque redevient obligatoire dans les rues de toute l'Espagne. Et puis au Royaume-Uni, ce sont plus de 106 000 cas de Covid qui ont été enregistrés en 24 heures, c'est un record.
Allez, on marque une petite pause et dans un instant, on revient avec cette spectaculaire évasion d'un détenu hier de la prison d'Ony dans le Val-d'Oise. Un agent a d'ailleurs été blessé. Le garde des Sceaux était sur place tout à l'heure. A tout de suite.
RTL Soir. Vincent Parisot, RTL Soir.
Et le journal de Stéphane Jeunesse qui continue avec, je le disais, le garde des Sceaux qui était cet après-midi au chevet d'un surveillant pénitentiaire. Il a été blessé hier dans l'évasion d'un détenu dans le Val-d'Oise.
Éric Dupond-Moretti qui s'est ensuite rendu à la maison d'arrêt d'Ony dans la banlieue parisienne pour rencontrer ses collègues. Tout s'est déroulé hier soir, Anne Le Hénaff, puisque le convoi du détenu transféré à l'hôpital était attendu par une femme qui a ouvert le feu sur les agents pénitentiaires.
Oui, sur ces 3 agents qui n'étaient pas armés, ce n'est pas systématique pour les transferts médicaux. L'un des 3 a donc reçu des tirs, une 30aine d'impacts de plomb. Il a heureusement été protégé par son gilet pare-balles. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, tout à l'heure à la maison d'arrêt d'Ony.
J'ai passé un moment là avec le blessé, qui était avec son épouse. Évidemment, psychologiquement, ça laisse forcément des traces, et des traces indélébiles. Il a hâte évidemment de retourner dans sa famille, d'essayer de passer les moins mauvaises fêtes de fin d'année possibles.
Le ministre de la Justice qui est venu dire son soutien indéfectible à ses agents qu'il a qualifiés de héros. Il a précisé que des formations étaient en cours depuis 2 ans pour former, habiliter et armer ses surveillants pour les transferts médicaux. Mais ces formations ont été ralenties par l'épidémie de Covid. Cette année, 8 détenus se sont évadés lors de trajets vers des hôpitaux sur 54 000 transferts, précise tout de même la chancellerie. L'évadé d'hier soir est donc en cavale avec ses 2 complices. Tous les 3 sont traqués. Un avis de recherche a été diffusé sur tout le territoire.
Merci beaucoup Anne Le Hénaff du service police-justice de RTL.
On est à 2 jours du réveillon de Noël, ça ne nous a pas échappé Stéphane.
Non, pas du tout.
C'est l'excitation générale pour beaucoup, les enfants comme les grands, mais voilà, pour d'autres, un peu comme le Grinch, si vous connaissez. Eh bien, c'est tout le contraire.
Eh oui, Vincent, puisqu'il déteste Noël, acheter les cadeaux, être à table pendant des heures, discuter avec son vieux tonton et puis s'écharper, eh bien, ça ne leur plaît pas. Ils détestent Noël. Mais bon, Guillaume Frixon, certains s'adaptent tout de même.
Exactement, chez Arnaud, seul un petit sapin est installé pour son fils de 10 ans, mais c'est bien le seul effort qu'il concédera. Que Noël soit une fête, pour lui, rien n'est moins sûr.
J'ai plutôt été confronté à de l'obligation qui me dérangeait, de l'abondance. Et ce trop, en fait, aujourd'hui, j'avais plus envie de subir cette féerie.
30 euros de cadeaux prévus pour sa compagne, 40 pour son fils, et ce sera tout. La fête à tout prix, très peu pour lui.
Ce côté obligé de gâter mon entourage me dérange, parce que si j'ai pas envie de le faire à cette période-là et que je préfère le faire à une autre période, c'est ça.
C'est pas une question de générosité.
Non, pas du tout. Absolument pas.
De son côté, à 30 ans, Thomas, lui, n'est pas contre de fêter Noël, mais il a de plus en plus de mal avec l'obligation d'enchaîner les réunions de famille le 24 ou le 25 décembre.
Noël, pour moi, c'est quelque chose d'extérieur, c'est les rues illuminées, c'est les vitrines, c'est les choses comme ça. Mais pour moi, personnellement, c'est rien, quoi. C'est pas une date en particulier, quoi. L'année dernière, on l'a fait le 1er janvier ou le 4 janvier, je sais même plus, mais voilà.
Le premier critère de crispation reste le stress lié à la recherche des cadeaux pour le jour J. 42% des Français redouteraient chaque année ce moment.
Le reportage de Guillaume Frixon à Clermont-Ferrand pour RTL.
Ça, c'est vrai qu'il y a du stress à vouloir trouver le bon cadeau. On hésite pendant une heure et puis finalement, en général, on se trompe. Allez, le foot ce soir sur les pelouses de Ligue 1.
Absolument, 19e journée du championnat ce soir et puis c'est la dernière pour cette année 2021. Coup d'envoi de tous les matchs à 21h à suivre évidemment dans tous les flashs de la soirée sur RTL. Hop.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Ah, elle est bonne cette nouvelle, mais elle est surprenante, vous allez voir, puisque vous connaissez Aladdin.
Oui,
bien
oui,
sûr.
Absolument.
Eh bien, la semaine dernière, deux bébés ont été sauvés des tornades aux États-Unis. Ils étaient non pas sur un tapis volant, mais dans une baignoire qui a été emportée par la force des vents.
Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis justement. Et coup de chance pour les deux bébés, puisque c'est un réflexe de leur grand-mère qui les a sauvés.
Oui, en entendant les sirènes annonçant la tornade, Clara a immédiatement pensé à ses deux petits-enfants dont elle avait la garde ce soir-là. Son premier réflexe, placer Caden, 15 mois, et Dallas, 3 mois, dans la baignoire. Elle les cale avec des coussins, des couvertures, et y place une Bible. La jeune grand-mère, elle, s'accroche.
I felt the rumbling.
J'ai senti le grondement, j'ai senti la maison trembler. L'instant d'après, la baignoire s'est soulevée, je ne la tenais plus. J'ai juste... Oh mon Dieu!
Oh my God!
Clara, légèrement blessée à la tête, survit, mais autour d'elle, c'est le chaos. Aucun signe de ses petits-enfants.
Tout ce que je pouvais dire, c'était « Seigneur, ramenez mes bébés sains et saufs, je vous en supplie ».
Avec l'aide de plusieurs shérifs dont la caméra piéton capte la scène, ils retrouvent la baignoire à l'envers et qui recouvrait les deux enfants. L'un des deux est blessé à la tête, mais ils sont sains et saufs. Grâce à la chance et aux réflexes de leur grand-mère, pour elle, ce sont surtout ses prières qui ont été entendues.
Les nageandrons pour RTL, c'est un peu un rêve bleu.
Oh bah c'est un peu un conte de Noël surtout, et une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Stéphane, vous revenez à 18h30 pour nous rappeler l'essentiel de l'actualité. Allez, le temps maintenant. J'espère qu'on aura un petit peu moins froid demain matin, parce que ce matin, ça pinçait. Alors,
le matin, il fera un peu moins froid, mais il y aura encore quand même pas mal de gelée, c'est vrai. C'est vrai que ça piquait, mais ça piquait aussi cet après-midi. La bonne nouvelle, c'est que demain, on aura moins froid dans le nord. Dans l'après-midi, on va retrouver également de l'air doux sur l'ensemble du pays. Écoutez bien, on peut gagner 5 à 8 degrés par endroit. 6 à Mulhouse demain après-midi, 9 à Paris, donc 8 de plus qu'aujourd'hui, c'est pas mal. On est même au-dessus des normales. 9 à Lille, 11 à Rennes, 13 à Brest, 14 à Toulouse et Toulon, et 18 degrés à Tarbes. Côté ciel, alors ce sera nuageux sur le nord-ouest le matin, jusqu'au Hauts-de-France et le nord-est l'après-midi avec de faibles pluies entre la Bretagne et la Normandie. Nuageux également avec quelques gouttes sur le Languedoc-Roussillon jusqu'au midi toulousain dans la matinée et jusqu'en Provence et en Corse dans l'après-midi, mais partout ailleurs. Du beau temps, du sud-ouest au massif central, Île-de-France jusqu'aux frontières de l'Est.
Ah bah écoutez, on va en profiter et on pourra faire les derniers cadeaux. Comme
exactement.
Il est 18h15.
La brigade RTL Soir.
Oui, la brigade RTL vient à nous ce soir pour faire le point sur les grosses tensions actuelles autour du prix du gaz. Parce que le prix du gaz explose, plus 23% sur la seule journée d'hier, 90%, oui, vous avez bien entendu, depuis le début du mois et depuis le début de l'année. Alors là, c'est encore plus fou, plus de 1000% de hausse. Alors, on a besoin d'explications. Bonsoir, Julien Fautra.
Bonsoir.
Les raisons sont à chercher du côté de l'Ukraine, dans le gouvernement allemand et chez Vladimir Poutine.
Poutine.
Oui, Vladimir Poutine au centre du jeu parce que 40% du gaz consommé en Europe vient de la Russie. Poutine, le seul qui pourrait intervenir sur les cours et les faire baisser. Mais rien de tout ça, prix multiplié par 10 en un an. La Russie a même arrêté quelques heures de fournir du gaz à l'Allemagne. Robinet coupé juste avant une vague de froid en Europe, en langage diplomatique. C'est une façon de dire, une façon brutale de dire... Ne l'oubliez pas, on est capable de vous couper le gaz. Or, l'Allemagne en est complètement dépendante.
C'est assez incroyable. C'est un coup de sang.
Ouais, du moins un avertissement glaçant pour le nouveau gouvernement allemand, dont les partenaires écologistes sont contre l'ouverture du nouveau gazoduc Nord Stream 2. Ce pipeline soutenu jusque-là par le gouvernement précédent d'Angela Merkel est enjeu économique et politique pour la Russie de Poutine.
Avec de grosses tensions entre l'Europe et la Russie, pourquoi cette hostilité croissante ?
C'est là que je vous emmène en Ukraine, à la frontière. Russe, ce gaz, il transite surtout par le vaste territoire ukrainien. Or, l'Ukraine est au centre d'un conflit entre l'OTAN et la Russie. Tout se recoupe. Les deux s'accusent de masser des troupes. Cette nuit, Vladimir Poutine a promis une réponse militaire si les Occidentaux n'arrêtent pas leur politique menaçante. Je cite le président russe. Le différent monte d'un cran et en attendant, ce sont les Européens qui payent la note.
Mais comment ça, vous voulez dire que ça va se traduire concrètement sur nos factures ?
Alors, pour le moment, le gouvernement français a gelé le tarif gaz pour toute l'année 2022. Donc, les Français ne ressentent pas jusque dans leur salon les tensions internationales. Seulement, c'est l'État qui met la main à la poche des milliards d'euros pour compenser la différence entre le prix qu'on paye, nous, et le prix du marché. Ce sont donc bien les Français qui régleront un jour la note de ces prix records.
Oui, parce que l'État, c'est nous, finalement. Merci Julien Fautra, la brigade RTL, chaque soir. Allez, une petite pause et puis dans un instant, toutes les questions que vous vous posez sur la vaccination des enfants des 5-11 ans. Nous sommes avec Christelle Gras-Le Guen, la présidente de la Société française de pédiatrie. À tout de suite.
RTL Soir.
Vincent Parisot, l'invité d'RTL Soir.
Invité d'RTL Soir, Christelle Gras-Le Guen, la présidente de la Société française de pédiatrie, également chef du service de pédiatrie au Centre hospitalier universitaire de Nantes. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On parle évidemment de la vaccination des enfants parce que les premiers rendez-vous pour cette vaccination peuvent désormais être pris par les parents. Alors vous-même, que conseillez-vous aux parents d'enfants de 5 à 11 ans ?
Eh bien, ce qui est important, c'est qu'ils puissent faire cette vaccination s'ils le souhaitent et qu'un certain nombre de parents inquiets attendent avec impatience. Aujourd'hui, on a des retours tout à fait rassurants de l'expérience nord-américaine sur les effets secondaires de ce vaccin qui sont très rares et pour lequel les parents vont pouvoir vacciner leur enfant s'ils le souhaitent.
Donc, vous disiez il y a encore quelques jours qu'il était sans doute préférable d'en discuter avec le médecin. Aujourd'hui, vous dites... Allez-y, vous pouvez y aller les yeux fermés ou presque.
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des parents qui attendaient ça avec impatience. Ceux-là, ils vont pouvoir y aller. Oui. Il y a les parents qui sont formellement opposés. Et donc, ceux-là, bien évidemment, ils ne vont pas y aller. Et puis, il y a tous ceux qui ont des questions, qui ont besoin d'échanger. Et là, c'est forcément leur médecin de confiance qui va être le mieux à même de leur donner les informations pour qu'ils puissent prendre leurs décisions de manière éclairée et transparente. Et donc, tous ces parents qui hésitent, il faut qu'ils aillent voir leur médecin de confiance, leur pédiatre ou leur médecin traitant.
Alors justement, parmi les questions qu'ils peuvent se poser, c'est de savoir si l'enfant a déjà été infecté par le Covid, est-ce qu'il faut tout de même le faire vacciner ? Et si oui, éventuellement, combien de temps après ?
Alors ça, c'est quelque chose qui a été assez codifié, un peu comme chez l'adolescent ou chez l'adulte. Si l'enfant a déjà fait un épisode, il faut qu'il ait une dose de vaccin pour remonter son taux d'anticorps, le protéger de façon efficace, et ça, au moins 2 mois après la période infectieuse. Et c'est à ce titre que la Société française de pédiatrie insiste beaucoup pour que tous les enfants qui vont être vaccinés aient une sérologie préalable pour voir s'ils ont déjà rencontré le virus, ce qui leur permettrait de n'avoir qu'une seule injection.
Donc une prise de sang auparavant ?
C'est ça. Alors la prise de sang, elle se fait au bout du doigt. C'est quelques gouttes de sang au bout du doigt. Elle se fait dans le centre de vaccination ou dans le cabinet où l'enfant se vaccine. Et ça permet d'avoir l'information au moment où on fait la vaccination.
Cette vaccination des enfants, elle va permettre d'aider à contenir cette nouvelle vague épidémique, selon vous, à ralentir la circulation du virus. C'est ça l'objectif ?
Alors c'est pas ça du tout l'objectif. Parce qu'effectivement, les enfants contribuent à faire circuler le virus, mais la proportion dans laquelle ils sont contaminateurs, elle reste quand même discutée, discutable, et ça n'est pas du tout la raison première de vacciner les enfants de cette tranche d'âge. Et cette raison première, c'est avant tout de les protéger contre les formes graves de Covid. Et ces formes graves, c'est environ 300 cas qui ont été observés dans cette tranche d'âge.
Avec notamment, je crois, le variant Omicron qui provoquerait un plus grand nombre, alors certes encore faible, bien sûr, heureusement, mais un plus grand nombre quand même de ces cas graves, vous confirmez ?
Alors, ce qui est très important à mettre en avant dans cette décision vaccinale, c'est qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors, plus sur les effets secondaires du vaccin, on est rassuré, mais il y en a d'autres, et en particulier sur ce fameux variant qui arrive et la façon dont il va se comporter vis-à-vis du vaccin. Et puis effectivement, est-ce qu'il sera plus dangereux ou au contraire moins dangereux ? Et donc là, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Il y a quelques réponses qui semblent se dessiner sur le fait en particulier que le virus Omicron ait besoin d'un taux d'anticorps élevé pour pouvoir être bloqué par la vaccination. Et donc, il y a beaucoup de choses qui restent encore à préciser et pour lesquelles les semaines qui viennent vont probablement être importantes.
Vous avez évoqué les effets secondaires du vaccin. Évidemment, on commence maintenant à les connaître, en tout cas ceux qui ont été vaccinés. Est-ce que pour les enfants, ce sont les mêmes ? Et est-ce qu'on doit surveiller son enfant comme le lait sur le feu après une vaccination ?
Alors, le lait sur le feu, c'est probablement excessif. Ce qu'on connaît comme effet secondaire, c'est ce que les adultes ont expérimenté. Ça peut faire un peu mal au point d'injection, ça peut donner un peu de fièvre. Et là, du paracétamol, ça permet de passer cette période juste après l'injection. Chez les adolescents, vous vous souvenez, on avait observé des cas de myocardite l'été dernier, qui sont a priori plus rares chez les enfants plus jeunes, et pour lesquels les Américains notifient, il me semble, une dizaine de cas pour 7 millions de doses administrées. Donc on voit que c'est une complication qui est extrêmement rare et pour laquelle il faut que les parents ne soient pas dans une inquiétude majeure.
Autre question, autre débat aujourd'hui pour tenter d'enrayer cette flambée, notamment cette flambée d'Omicron. Certains proposent d'instaurer une semaine de vacances supplémentaires après les fêtes pour éviter que voilà, tous les enfants se retrouvent ensuite, juste après ces vacances de Noël. Qu'en dites-vous ?
Alors je crois que le gouvernement n'a pas retenu cette hypothèse, dans la mesure où, encore une fois, l'école n'est pas le lieu numéro un de dissémination ni de contamination. Mais c'est bien les familles autour des tables, dans les restaurants, autour des bars. Et donc, la recommandation qu'on peut faire, c'est de limiter au mieux les grands rassemblements, les grands groupes, et de rester vigilant en ce qui concerne les festivités là, qui nous attendent. Mais ça s'adresse avant tout aux adultes.
Les ados de 12-17 ans, est-ce que c'est logique que pour l'instant ils ne soient pas concernés par cette troisième dose ? Est-ce que c'est un trou dans la raquette ?
Alors, ils ont reçu deux doses pour la plupart. Ils se sont vaccinés très vite et massivement. On sait que leur système immunitaire est extrêmement tonique, réactif, et qu'ils produisent des taux d'anticorps qui sont beaucoup plus élevés que leurs aînés, en particulier les personnes âgées. Donc la priorité, c'était que toutes les personnes âgées, ou en tout cas les adultes susceptibles de faire des formes graves de Covid, reçoivent cette troisième dose. Il est évident qu'on y viendra dans quelques semaines, dans quelques mois, mais que là, la priorité, c'était avant tout de protéger les gens susceptibles d'aller en réanimation. Et je rappelle ce chiffre, en réanimation, 85% des patients qui sont admis pour un Covid sont pas ou mal vaccinés. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête.
Dernière question, Christelle Gras-Le-Guen. Un enfant de entre 5 et 11 ans qui va se faire vacciner, mettons demain, est-ce qu'on peut considérer que le lendemain ou le surlendemain, il pourra embrasser ses grands-parents sans aucun risque ?
Alors, on a bien vu autour de nous, on peut être vacciné et on peut quand même contracter le virus et être contaminant. Donc, le vaccin, ça ne veut pas dire plus de gestes barrières, ça ne veut pas dire on reprend une vie normale. On l'a vécu avec les adolescents cet été, ils sont retournés à l'école masqués. Et donc, être vacciné, ça ne veut pas dire on ne fait plus attention.
Merci beaucoup, Christelle Gras-Le-Guen, présidente de la Société française de pédiatrie. Merci d'être intervenue ce soir sur
Merci
RTL.
À vous.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Il est 18h27, une courte pause dans un instant, le rappel de l'info, la météo. Et puis si vous envisagez de vous auto-tester avant Noël, eh bien on va vous faire un tuto en direct. A tout de suite.
RTL Soir.
RTL. 18h30.
Vincent Parisot,
RTL Soir.
Et c'est l'heure d'un nouveau point sur l'actualité rapide avec Stéphane Genest.
Le variant Omicron du Covid-19, bientôt majoritaire dans le pays, sûrement entre Noël et le jour de l'an. Le gouvernement alerte, Omicron se répand à vive allure et l'épidémie pourrait repartir en trombe. Près de 100 000 contaminations par jour d'ici la fin du mois. C'est dans ce contexte justement que les jeunes Français âgés de 5 à 11 ans reçoivent à partir d'aujourd'hui leur première dose de vaccin contre le Covid. En Espagne, c'est l'inquiétude. Le port du masque est rendu obligatoire dans toutes les rues du pays. Et puis au Royaume-Uni, c'est un record. 106 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés hier. Et enfin du foot, 19e journée du championnat de Ligue 1 ce soir, la dernière de l'année 2021. Coup d'envoi à 21h de tous les matchs. À suivre évidemment dans les flashs toute la soirée sur RTL.
Merci Stéphane, je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que vous êtes déjà auto-testé?
Non, jamais, mais je vais regarder ça avec attention.
Voilà. Restez un petit peu avec nous dans quelques minutes. On va vous montrer comment il faut faire. Avant cela, évidemment, la météo, Peggy Broche. Donc au nord, il va faire moins froid. On va retrouver, disons, des températures de saison.
Exactement, même un peu plus par endroit. En tout cas pour les maximales, parce que le matin, il y aura encore pas mal de gelées. Mais c'est vrai qu'en journée, ça va remonter de 6 degrés sur le nord-est à 11 dans le nord-ouest, 9 à Paris, alors qu'on a eu 1 degré cet après-midi, 13 à Brest. Dans le sud, de 11 à 18 degrés à Tarbes. Côté ciel, une perturbation peu active va donner un ciel bien nuageux sur le nord-ouest le matin, jusqu'au Hauts-de-France et le nord-est l'après-midi, avec de faibles pluies entre la Bretagne et la Normandie, et pareil près de la Méditerranée et la Corse, mais partout ailleurs il fera beau.
Merci.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Les dessous de l'actu. Et ce soir, les dessous des autotests qu'il est donc possible d'acheter pour se tester avant le Noël en famille. Bonsoir Léonard Cassette.
Bonsoir.
Alors, tout d'abord, cet autotest, il faut le trouver.
Oui, franchement, mettre la main sur des autotests, eh bien, c'est pas facile. Au total, j'ai dû faire 2 villes différentes, Ermont et Aubonne, dans le Val d'Oise. 7 pharmacies avant de trouver un présentoir presque vide. À chaque fois, c'est la même histoire.
Est-ce que vous avez des autotests?
On n'en a plus du tout.
Direction une nouvelle pharmacie où je croise Martine. Avec son mari, elle reçoit ses enfants à Noël. Elle aussi veut faire le test à la maison avant le réveillon.
Et nous avons un peu peur parce que nous avons un âge avancé. Je tente notre chance pour voir si je peux trouver des autotests. Je suis sûre que ça va être très compliqué. Je ne vais pas être la seule, mais dans le coin, il y a 4 pharmacies, donc j'ai toute la matinée, donc je vais tenter ma chance.
Du coup, je décide de suivre Martine dans sa tournée.
Bien vu.
Auriez-vous par hasard des autotests, s'il vous plaît ?
Non, pas encore. On devrait les recevoir aujourd'hui ou demain.
D'accord. Bon, je vais tenter ma chance ailleurs.
C'est seulement après plus d'une heure à chercher la pharmacie dans le froid, et franchement j'étais à deux doigts d'abandonner, que je tombe sur un tout petit stock d'une dizaine de boîtes de 5 tests à la grande pharmacie du centre à Ermont.
C'est combien du coup ?
25,90 les 5. Merci beaucoup.
Et ça a fini finalement par payer. Hein. Faut persévérer. Faut jamais abandonner dans un reportage, hein, je vous dis ça. Bon, en tout cas, l'essentiel est là. Le kit d'autotest, vous l'avez devant vous. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous avez là?
Exactement, j'ai la boîte avec moi. Et dans cette boîte, on a une notice d'utilisation qui détaille tout. 5 écouvillots qu'il faut s'insérer 2 à 3 cm dans les narines.
Alors, allez-y, vous le faites en direct. Voilà, on le tourne doucement. Plusieurs
ça
fois.
Un peu, hein.
Ah, ça chatouille, bah oui, c'est. Donc vous tournez plusieurs fois, vous allez bien au fond.
Voilà, on les plonge ensuite dans un petit tube avec un réactif qui
vous
est,
l'avez,
qui
le
est
petit
juste
réactif. Là.
Là,
donc vous plongez cet écouvillon
oui,
dans
voilà.
le petit tube
dans
réactif.
Le tube qu'on va ensuite fermer et on va.
C'est
va
comme un test antigénique. Hein,
c'est ça, c'est exactement comme un test antigénique. Ensuite, on va verser quelques gouttes du produit du petit tube sur une carte en plastique et un quart d'heure plus tard, on a le résultat. Une seule barre rouge, c'est négatif. 2 barres, c'est positif.
Bon, bah, si vous avez une seule barre rouge dans 10 minutes, un quart d'heure, on sera très heureux pour vous. Si vous avez 2 barres, c'est tout de suite dehors et vous rentrez à la maison. Sérieusement, est-ce qu'il est vraiment fiable, ce test?
Bah, dans la mesure où je l'ai fait correctement en suivant la notice, un autotest, c'est efficace à 80%.
Ouais.
Mais attention, c'est 80% sur les personnes ayant des symptômes. Pour les asymptomatiques, l'efficacité du test tombe à un peu plus de 50%. Dans tous les cas, un autotest, c'est moins fiable qu'un test antigénique. Moins qu'un PCR. En revanche, c'est un très bon filtre si toute la famille le fait, juste avant de se retrouver le plus tard possible. Et c'est ça qui explique que juste avant les fêtes, ils sont quasiment introuvables.
En tout cas, on a tout compris. Merci beaucoup. J'espère que vous n'aurez qu'une seule barre rouge. Vous venez nous prévenir, évidemment. Vous nous donnez le résultat. Merci pour ce tuto en direct sur RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Il est 18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et on accueille Isabelle Morini-Bosse qui nous fait un super plateau télé avec un gros plat de résistance ce soir. Bonsoir tout Isabelle.
Bonsoir tout le monde. Alors, belle comme... narine le camarade.
Oui, hein, franchement, merci beaucoup hein, Monsieur Cassette, mais donnez-nous le résultat. Je sais de quoi vous allez nous parler, c'est pour ça que je disais un gros plat de résistance, évidemment. Oui. C'est ce soir la finale de la France à un incroyable talent sur M6.
Regardez Peggy, mais il faudrait.
Je vais regarder.
C'est pour, oui, pour moi... C'est mon obligation légale du jour, vu que c'est mon programme préféré et celui de 3 500 000 téléspectateurs cette saison. C'est un score énorme. 26% des femmes, record historique, et autant des moins de 50 ans ont apprécié. Et les numéros des candidats, 195 cette année contre 90, 95 les années précédentes. Ouais. Et les jurés, Hélène Ségara, Marianne James, le très acide canadien Shuga Samy.
C'est vrai qu'il est assez acide.
Oui, oui. Eh bien, vous allez voir. Et bien sûr, Éric Antoine. C'est vrai que les artistes privés de scène pendant un an ont tout donné. Les 13 finalistes sont absolument prodigieux. Moi, j'ai un petit faible pour Alan, le jeune danseur aveugle, et ses amis. Pour la troupe de Sadek, à la précision minimaliste, c'est prodigieux. Pour Matteo, le danseur au Diabolo. Pour les frères Cole, spécialistes de la batterie. Mais j'avoue aussi une vraie tendresse pour les chanteurs de l'école des officiers de Saint-Cyr. Là, j'ai pas voulu les déconcentrer en les appelant. Mais écoutez ce qu'ils me disaient le lendemain de leur première prestation. C'est la première fois qu'on les voyait sur scène. Ouais. Je leur faisais remarquer que leur chant était magnifique, mais un peu linéaire, et que mettant en valeur toutes les voix, ils n'en faisaient ressortir aucune.
Forcément, c'était attendu qu'on nous reproche le fait que ce soit pas très joyeux, peut-être un peu lent et moins technique que certains autres chants. D'où la demande de Marianne James d'une deuxième chanson, un peu plus, guillerette.
On chante à quatre voix. Il y a une difficulté, celle de mettre en valeur les quatre voix sans que l'une d'elles...
ne vampirise.
Exactement.
C'est justement sur la performance technique et la valorisation des différentes voix qu'on va travailler pour la finale.
Qu'est-ce qui prévaut pour la finale? L'excitation, le stress, les deux mon capitaine?
Les deux, mon général.
Mon général. Voilà. Alors, ils sont beaux, ils sont en uniforme.
Ah oui, ils sont en uniforme. Mais oui, parce que le treillis, c'est pour le terrain. Ouais. Et donc là, ils sont sur scène, donc c'est pas possible. Mais si l'émission a autant plus, c'est également grâce au jury, et plus particulièrement, vous l'avez dit, au boutade vachard du Québécois Shuga Samy. Ouais. Voici un bout à bout de ces petites phrases.
La force de ce numéro, c'est le danger. Ça va être comme faire l'amour avec Éric Antoine. Oui, c'est grand et impressionnant, mais est-ce que le risque vaut le plaisir? J'ai jamais vu autant d'insignifiance en si peu de temps. Et moi, je regarde la télé française. Écoute, c'est comme Karine Le Marchand, c'est magnifique, mais tu fermes les yeux et c'est juste du bruit.
Voilà. Or, donc,
ah oui, quand même, il est sympa. Oui.
Finale en direct sur M6, c'est le public qui vote, mais avec tout ça, on a oublié, au moins que je vous le cite, la nouvelle tradition Noël, à votre avis?
Je ne sais pas.
Eh bien, c'est la comédie Le Père Noël est une ordure.
Évidemment.
Une nouvelle fois sur la 2 avec toutes les phrases cultes, interrogations écrites après l'émission. Oui, voilà. Oh, j'avais justement besoin d'une serpillière.
Joyeux Noël, Félix, en tout cas. Et puis, pour vous, Isabelle, on attendra vendredi minuit pour vous souhaiter un joyeux Noël. Merci beaucoup.
Ben, j'entends bien.
Une petite pause et ensuite RTL Soir continue. Ce sera avec Cyprien Cini et sa bande pour défaire le monde.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Cyprien, Céline Landreau.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Et Laurent Tessier.
Bonsoir à tous.
Il est là.
À tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.